Essayons d'abord un peu de débroussailler cette parabole dite des talents qu'on ne trouve en l'état que dans l'évangile selon Matthieu. Il y a une sorte d'équivalent dans l'évangile selon Luc, une parabole qu'on appelle la parabole des mines. Les mines, c'est une autre monnaie. Une parabole qui lui ressemble, mais c'en est une autre. Elle est différente. Déjà, pour les sommes en jeu. Un talent, une unité de monnaie donc, ça a 60 fois plus de valeur qu'une mine. On dit que cela pourrait être l'équivalent de 300 000 euros, ce qui est énorme. Déjà, on peut s'étonner que cet homme, ce maître, congratule ses deux premiers esclaves en leur disant, je cite, « Tu es un bon esclave d'avoir été digne dans une petite affaire. » Il dit ça, par exemple, au premier de ses trois esclaves à qui il avait donc confié 5 fois 300 000 euros, ce qui nous ferait donc évidemment 1 million et demi d'euros, lequel esclave se représentera devant son maître avec le double de la somme, c'est-à-dire 3 millions, l'équivalent, si vous voulez, de 150 années de salaire moyen. Appelez ça une petite affaire, à mon avis, il y aurait, mais ça n'engage que moi, un peu d'ironie dans l'air de cette parabole. Ce qui est rarement noté dans les commentaires de cette parabole. L'ironie, évidemment, mais aussi l'extravagance des sommes. De la même façon, d'ailleurs, on a toujours eu un peu de mal avec l'extravagance. Un peu de mal à considérer, par exemple, le volume d'eau, quelques 700 litres, que Jésus, dans les noces de Cana, récit très célèbre, change en vin. C'est énorme aussi, 700 litres. Cette extravagance de certains textes, qu'ils soient des paraboles ou pas, est rarement utilisée comme vecteur de compréhension. Hypothèse, il ne faudrait pas laisser la parole de Dieu déborder, car l'institution avec son vocabulaire, ses modes interprétatifs, aurait le désir, un peu fou, de la contenir cette parole, tout en prétendant le contraire. Je pense que déjà l'énormité de la somme imprimait quelque chose de spécial chez ceux et celles qui écoutaient cette parabole de Jésus et qui, eux ou elles, contrairement à nous, avaient conscience des valeurs monétaires de leur époque. Et on le sait bien, Jésus utilisait ce mode d'expression, la parabole, non pas exactement pour faire la morale, mais d'abord, en tous les cas, pour dérouter ses auditeurs en utilisant des effets spectaculaires ou intrigants, afin qu'après avoir été déroutés, ses auditeurs retrouvent une route plus évidente, plus claire, pour aller cheminer vers ou dans ce règne de Dieu qui s'annonce, qui se présente à travers Jésus que certains parmi eux, ses auditeurs, ses foules, considéreront comme le Messie, comme leur Messie ou leur Christ. Continuons le débroussaillage. Cette parabole fait suite à deux autres paraboles tout aussi étranges et déroutantes. Celle du serviteur plus ou moins ivrogne et bagarreur qui n'a pas la patience d'attendre gentiment le retour de son maître et qui se fait donc jeter dehors, licencié. Et cette parabole aussi, qui précède immédiatement ce texte, des fameuses 10 vierges sages et folles, dont la moitié, vous l'avez entendu la semaine dernière, restera devant la porte quand le retour de l'époux sera effectué. Et dans notre texte, il y a deux bons et un mauvais. Ce dernier se retrouvera dans les ténèbres du dehors, dit le texte, là où il y aura des pleurs, là où il y aura des grincements de dents. Ce n'est pas exactement l'enfer, puisqu'à l'époque de Jésus, personne n'y croyait, mais on va dire que ça y ressemble un peu. Ce serait plutôt le ressenti du temps, par exemple, quand on se retrouve dans la situation d'avoir raté une occasion favorable et que l'on sait que celle-ci ne va plus jamais se représenter, d'où les grincements de dents, D'où les pleurs, les sanglots, c'est trop tard, c'est fini. Nul doute, en revanche, que cette parabole et les deux précédentes, qui s'adressaient évidemment à des gens qui n'étaient pas encore dehors, ces paraboles étaient faites pour réveiller, pour éveiller la disponibilité de ces gens, pour qu'ils puissent saisir l'occasion favorable et qu'ils puissent éviter de se retrouver dans le néant, dans les pleurs, dans les grincements de dents. Pour le dire autrement, si ces paraboles éliminent toujours un personnage ou une catégorie de gens, la forme de malheur qui tombe sur ces personnages n'arrivera qu'après le temps dans lequel les gens sont en train d'écouter les paraboles de Jésus et quand ils peuvent encore se dire que ce n'est pas trop tard. De la même façon que si on peut s'imaginer que dans sa vie, il y aura peut-être un moment où on se dira que c'est trop tard, on peut simultanément se dire qu'on n'y est pas encore et que peut-être jusqu'au bout, et même quand les possibilités semblent se réduire comme des pots de chagrin, il y aura toujours de l'occasion favorable à saisir. Pour éviter de grincer des dents dans les ténèbres, dans cet obscur post-lude évoqué dans les paraboles évangéliques, c'est affreux ce qui arrive à ces gens, mais ils ne sont pas dans notre temporalité d'auditeurs actuels. Après réflexion, finalement, ce sont des personnages vraiment fictifs qui viennent comme des agents d'un futur possible, mais pas certain, qui viennent nous avertir qu'il faut arrêter de gaspiller sa vie. Nous n'avons pas encore fini de débroussailler, mais en même temps, on avance dans l'interprétation. La quasi-totalité des commentateurs disent ou considèrent comme acquis, comme si c'était écrit dans le texte, alors que cela ne l'est pas du tout, que ce maître, ce chef, ce riche, cet homme plein de talents à distribuer, c'est Dieu. Oui? Non? Qui sait? La question est-elle pertinente? C'est une parabole. Et il n'y est pas surligné que cet homme extrêmement riche, qui part en voyage, qui s'absente après avoir distribué des sommes faramineuses à ses esclaves, il n'est pas dit que ce soit Dieu. C'est un peu étonnant, ça aussi, cette distribution. Franchement, ce sont des esclaves, dit le texte et la traduction de la Nouvelle Bible Second. Ce sont vraiment des esclaves qui, vraiment, du coup, n'ont pas du tout pensé qu'ils auraient pu utiliser cette somme pour s'enfuir et puis se libérer. Disons que ce sont des esclaves qui se sont fait, je dirais, facilement acheter, et on va dire dans ce cas-là, puisque ce sont des esclaves réachetés. Oui, cet homme qui serait l'image d'un dieu assez désinvolte, donc qui part sans donner aucune consigne, alors que si c'était Dieu des consignes, il y en aurait eu, il y aurait eu la Torah, où il est clairement stipulé qu'on ne peut pas être l'esclave de l'argent dû, de la dette, d'un argent qu'on serait censé devoir rembourser éternellement. La Torah préconise que pour éviter cet esclavage-là, les dettes doivent être périodiquement remises, intérêts et capital, et que les esclaves doivent être, au bout d'une certaine période, libérés. Et dans notre parabole, ces esclaves qui leur restent doivent rembourser, si l'on peut dire, l'intérêt et le capital. Dans le même esprit de non-fascination pour l'argent, Jésus dit lui-même qu'on ne peut adorer deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Et ensuite, cet homme qui serait l'image de Dieu, il revient et il semble très satisfait de deux de ses esclaves. Et sa forme de satisfaction arrive difficilement à susciter chez le lecteur ou l'auditeur une farouche sympathie. Il est satisfait que deux de ses esclaves lui aient chacun rapporté finalement, comme des chiens, le double de ce qu'il leur avait laissé. Et cet homme, cette personne riche, ce maître, semble se plaire aussi, et ça non plus ce n'est pas très sympathique a priori, se plaire à traiter durement, violemment, celui qui n'a fait que protéger ce qu'il avait reçu. À l'instar de ce personnage d'une autre parabole de Jésus, qui trouve un trésor caché et le cache de nouveau dans le champ. Ça, c'était il y a quelques paraboles avant. Ici, eh bien ici, maintenant, la méthode de cacher ou d'enterrer ne semble plus fonctionner. Alors oui, Dieu, pas Dieu, je pense qu'il ne sert à rien de se déterminer là-dessus. Car, à mon sens, là n'est pas la question. La question c'est, qu'est-ce que je fais des talents que j'ai reçus? Qu'est-ce que j'en fais tout court? Quelle est la meilleure attitude? Pour ne pas se faire reprocher, pas forcément par Dieu, mais un soir de déprime, par un homme qui reviendrait, et cet homme, qui d'ailleurs pourrait être une femme, ce serait nous-mêmes qui nous demanderait, qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ma vie? Dieu est sûrement dans le coup, mais l'enfermer dans ce personnage antipathique complique inutilement l'interprétation d'un texte pareil. Elle l'enferme, elle la contient. Cet homme, c'est la conscience qui revient de voyage. Elle a été longtemps, trop longtemps, absente. Et c'est un des seuls personnages de cette parabole qui a un rapport avec le réel. Et l'autre personnage qui a un rapport avec le réel, c'est le mauvais esclave, qui, évidemment, en tant que personnage, est un aimant d'identification pour l'auditeur, car c'est vers lui que se concentre toute l'action. Lui, donc, c'est moi. Je ne veux pas. Je ne veux plus être ça. Je croyais bien faire, car j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire. Et là, je me rends compte que l'homme qui revient de voyage, eh bien c'est aussi moi-même, et qu'en vérité, en fait, il n'y aurait qu'un seul personnage dans cette parabole. En vérité, revenu de voyage, je me fais me rendre compte que j'étais dans l'erreur. Mais heureusement, puisqu'on est encore aujourd'hui, je peux encore rectifier. Merci Seigneur. Et là, on peut dire merci à Dieu et aussi à soi-même qui vient de se réveiller ou de s'éveiller. Nous ne sommes plus désormais dans le débroussaillage, nous sommes dans l'interprétation et ça y est, on a été dérouté. C'est ici une des nombreuses paraboles produites pour nous faire sortir de notre torpeur. Comme ne l'aurait peut-être pas dit Lacan, le psychanalyste, la torpeur, c'est quand on a tort et qu'on a peur. Oui, bien sûr, les talents qu'on a reçus déjà, il faut savoir qu'on les a reçus. Et donc, pour s'en apercevoir, il faut déjà arrêter de dormir. Et cette extravagante parabole avec ses sommes astronomiques, à condition de ne pas la louper, de ne pas louper l'interprétation, de ne pas louper le centre de cette parabole, pourrait avoir la fonction d'orchestrer un réveil en fanfare. Et aussi, grâce à cet aspect prodigieux des sommes en question, il n'y a pas trop de difficultés, une fois réveillé, pour se rendre compte que c'est cette vie qu'on a reçue qui est astronomique et qui est le talent. Elle est énorme. Elle ne mérite pas d'être condamnée à la torpeur, à l'enfouissement, à la domestication servile, à l'esclavage, à l'exclusion, toutes ces données qu'on a dans ce texte du jour. Ce n'est pas d'argent qu'il s'agit ici, ni même de quelque chose à faire fructifier. C'est bien plus que cela. Il s'agit tout simplement de moi-même face à ma conscience. Ma conscience confrontée à la nécessité de me détourner et de me retourner pour me retrouver en situation de pouvoir être rencontré par celui qui nous a offert la chance d'avoir une existence, une vie, et d'en mesurer non pas la beauté, parce que cette vie peut être trop laide, trop difficile, trop dure, mais tout simplement, si je puis dire, d'en mesurer l'ampleur, de mesurer l'énormité de cette vie que même 100 000 talents ne pourraient pas représenter. Mais cette parabole tente, malgré tout, d'en représenter quelque chose, d'en dire quelque chose, d'en exprimer quelque chose par son exagération, par son extravagance et par son ironie. Alors oui, j'aurais bien aimé avoir eu la chance d'écouter Jésus ainsi parler aux gens. Mais je peux me rendre compte qu'en fait, je suis toujours dans la possibilité de recevoir ce qu'il a à me dire au cœur de ma vie, quand je me rends enfin compte qu'il n'est pas trop tard et que je peux ne pas me faire enlever, comme dit le texte, ce que je n'avais pas encore su considérer à sa juste valeur. Amen.